La parole de Dieu se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 31 à 37. Matthieu 12, 31 à 37. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes chose, mauvais comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bon de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Prions pour l'évêque qui va prêcher la parole aujourd'hui, pour que Dieu lui donne la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Prions pour nos âmes, pour qu'elles puissent comprendre la parole par le Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Dieu le Père, merci de nous permettre d'écouter ta parole. Influence ton serviteur par le Saint-Esprit pour qu'il puisse prêcher ta parole que tu veux nous donner. Que tous les membres de l'Église puissent être conduits par le Saint-Esprit lorsqu'ils reçoivent ta parole. Je prie au nom de Jésus. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Puisque le Christ souffrit jusqu'à la mort afin d'accomplir la volonté de Dieu, celle-ci est grande et précieuse à ce point. Il monta dans les cieux et envoya au monde le Saint-Esprit paraclet. Il le fit aussi afin de faire la volonté de Dieu. Les œuvres des cieux, c'est Dieu qui les fait. Le Christ fit les œuvres de Dieu jusqu'à la mort. Le Saint-Esprit aussi les fait jusqu'à la fin du monde. Cependant, l'opération du Saint-Esprit est limitée dans le cœur des saints et non oppressive. Ainsi, l'obéissance des saints envers le Saint-Esprit peut accomplir la volonté de Dieu, tandis que leurs problèmes la restreignent. Les saints doivent coûte coûte être sous l'influence du Saint-Esprit. Les saints doivent garder le cœur de gratitude vis-à-vis de la grâce reçue par la repentance et l'humilité continue. Tous les saints doivent faire de leur mieux pour le culte, par le culte et les réunions publiques pour devenir une église qui est sous la même influence du Saint-Esprit. Nous devons être influencés par le Saint-Esprit pour devenir une église de service bénévole sincère en vue du salut des âmes et de la croissance de l'Église, puisque nous devons à tout prix devenir un pour participer à l'opération du Saint-Esprit. Il faut que la volonté personnelle des individus se soumette devant le Saint-Esprit. Obéissons au Saint-Esprit en devenant un. Autour de nous, il y a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui a été existé avant que nous existions. Même si nous n'existons pas dans ce monde, la volonté de Dieu existe. C'est la raison pour laquelle la volonté de Dieu est devant tout. Et devant toutes choses. En fait, Dieu accomplit sa volonté côte à côte. La volonté de Dieu ne peut que s'accomplir parce que Dieu le fait. Elle ne peut que s'accomplir parce que c'est Dieu qui a cette volonté. Donc, la volonté qui doit être absolument accomplie ne doit pas être rejetée par les hommes parce que si nous le faisons, nous nous opposons à ses œuvres, aux œuvres de Dieu. Lorsque nous vivons dans ce monde, même à notre insu, il accomplit sa volonté. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas voir la volonté de Dieu visiblement, en fait avec nos yeux physiques. Mais si nous supposons que la volonté de Dieu soit visible, nous pouvons penser que la parole de Dieu passe devant nous. Parfois, nous pouvons la saisir, mais cette parole passe sans qu'on la saisisse. À ce moment-là, la volonté de Dieu ne peut pas agir en nous, parce qu'on fait passer cette volonté devant nous. Mais si vous regardez la Bible, depuis le début de l'histoire de l'humanité, Dieu a accompli justement sa volonté. Alors dans ce monde, non seulement nous, mais aussi la volonté de Dieu existe. Mais cette volonté, la volonté de Dieu existait devant notre existence. Donc, la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu nous a montré son existence et il l'a rendu possible, notre existence, et il conduit notre existence. On ne peut donc pas ignorer sa volonté. Il faut que nous l'accueillions avec joie. Alors, nous, les chrétiens, connaissons très bien Dieu. Il nous a sauvés selon sa volonté et il nous conduit au royaume éternel selon sa volonté. C'est la raison pour laquelle la volonté de Dieu est notre espérance éternelle. Il ne faut pas l'éviter donc. Puisqu'il y a la volonté de Dieu, vous et moi pouvons garder l'espoir. Pardon. Même si nous pouvons tomber parfois, même si nous pouvons nous ébranler, nous pouvons nous relever tout de suite. Et voilà la vie de la foi que nous menons. Puisqu'il y a la volonté de Dieu. Alors la volonté de Dieu est notre puissance, notre force. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est la source de tout. Et la volonté de Dieu nous donne une grande force qui nous fait bouger. Mais, alors, vous et moi, parfois, nous pouvons perdre la volonté de Dieu qui est devant nous. En fait, prenons l'exemple de Jésus. Jésus est venu dans ce monde afin d'accomplir la volonté de Dieu le Père. En fait, il a accompli la volonté de Dieu. Alors là, en toute sa vie, il a accompli déjà la volonté de Dieu. Et il est en train de le faire. Lorsque Jésus est venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu, on pouvait le voir en étant près de lui. L'humanité l'a vu, en fait, en étant tout près de lui. Il est venu donc afin de faire la volonté de Dieu le Père. Pour ce faire, il a dédié sa vie à Dieu. Il a sacrifié sa vie. Donc, en fait, la pensée de Jésus était totalement différente de celle des hommes. Cela signifie que Jésus a sacrifié sa vie. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ce genre de choses ne se trouve pas dans notre destin parce que personne ne veut mourir. Mais Jésus est venu afin de sacrifier sa vie parce que c'était la volonté de Dieu. Donc, logiquement, l'accomplissement de la volonté de Dieu est le plus important. Pour Dieu le Père, c'est la raison pour laquelle il a sacrifié son Fils afin d'accomplir sa volonté. Bien sûr, il aime son Fils, mais ce qui est le plus important, ce n'est pas son amour pour son Fils, c'était plutôt l'accomplissement de sa volonté. C'est la raison pour laquelle il a laissé mourir son Fils sur la croix. Alors Jésus a dit, je suis venu pour mourir. C'est pourquoi il est mort, il a été ressuscité selon le commandement de Dieu le Père. Juste avant qu'il meure sur la croix, il a prié au mont de Gethsémané. Il a prié donc sur ce mont. sur ce mont des Oliviers. Cela nous rappelle quelque chose. C'est une parole très importante pour nous. En fait, on peut se trouver dans la même situation que celle où Jésus s'est trouvé. Il est venu en tant qu'être humain et il a expérimenté toutes sortes de situations où l'homme peut connaître dans ce monde. Donc, il a connu toutes les situations possibles où les hommes peuvent se trouver. Donc, parce que le monde est un lieu difficile à vivre, parce que le monde nous offre beaucoup d'opportunités de connaître beaucoup de souffrances. Alors, Jésus est venu pour connaître ces souffrances, pour les expérimenter afin de nous sauver. Donc, pour nous, il est vraiment pénible de vivre dans ce monde. Jésus a aussi connu cette pénibilité en vivant dans ce monde. Le monde des Oliviers Gethsémané, c'était un lieu de confrontation entre la volonté des hommes et celle de Dieu. Celle de Dieu. Alors, Jésus ne s'est pas opposé à la volonté de Dieu le Père. Tout ce qu'il a fait, c'était quoi? Il a fait connaître sa situation à Dieu le Père, parce que cette situation était confrontée à la volonté de Dieu le Père. Il a confessé son cœur, il a confessé ce qu'il a pensé en disant que cette coupe se passe. Mais malgré tout, il a décidé d'obéir à la volonté de Dieu le Père. Il a dit finalement que ta volonté se fasse, non pas la mienne. Voilà, il a ainsi prié à Dieu le Père. Voilà, donc Jésus-Christ a présenté ses fardeaux qu'il pouvait supporter, qu'il devait en fait supporter en tant qu'être humain. Alors Jésus est mort sur la croix. Il n'a pas non seulement abandonné sa vie sur la croix, mais il l'a aussi fait quelque chose de plus difficile. Donc, les œuvres de Jésus étaient quoi? C'était une souffrance. Hein? C'était quelque chose de très difficile à accomplir. Jusqu'à ce qu'il meure sur la croix, il a été méprisé, il s'est totalement abaissé. Et au dernier moment, il a connu une grande souffrance qui était vraiment difficile à supporter. Il a été méprisé. Il a été menacé d'être tué. En plus, il a été sévèrement insulté, grandement insulté, mais Jésus était Dieu. Il était le Fils de Dieu, en fait. Physiquement, il a beaucoup souffert. Non seulement la souffrance physique, mais aussi la souffrance mentale. Voilà la souffrance que Jésus a connue. Donc voilà, il a supporté toutes sortes de souffrances pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté de Dieu le Père. Voilà, mais il a choisi lui-même connaître ses souffrances. Il est mort sur la croix. Et même si Dieu le voulait, même si c'était la volonté de Dieu, Jésus devait pratiquer cette volonté. Donc, lorsque Jésus a pratiqué la volonté de Dieu le Père, il a connu beaucoup de souffrances. Il a subi beaucoup de préjudices, mais finalement, il a accompli la volonté de son Père. Et pourquoi il a obéi à la volonté de Dieu? Pourquoi il devait y obéir? Est-ce que c'était juste de le faire? La réponse est oui, parce qu'il avait une mission à accomplir. Jésus est le Christ. Il a reçu cette mission. Il devait accomplir la volonté de Dieu le Père. Une chose que nous devons retenir, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Puisqu'il est le Fils de Dieu, il devait obéir à son Père. En fait, nous aussi, on est enfants. On a donc les parents. Et alors, on se pose toujours beaucoup de questions en ce qui concerne la question de la piété filiale. Donc, la relation entre Dieu et son Fils Jésus est le prototype de notre relation entre nous et nos parents. Voilà, Jésus a passé le mont des Oliviers, Gethsémané, qui, en voulant accomplir la volonté de Dieu le Père. L'environnement où on se trouve est très semblable à l'environnement où Jésus se trouvait. Parce que nous avons aussi une charge ou des charges, des missions à accomplir. Non seulement les charges que nous devons accomplir au sein de l'Église, mais aussi les charges personnelles que nous devons accomplir. Ça, c'est qu'est-ce que c'est? Il y a une charge commune que tout le monde doit supporter, c'est le nom Jésus. Avoir le nom de Jésus, c'est une mission, hein, c'est une charge. Alors, on peut obtenir la puissance par le nom de Jésus. On peut sortir de notre crise, bien sûr, de nos problèmes à travers le nom de Jésus, mais ce n'est pas tout. Posséder le nom de Jésus, c'est une mission, c'est une charge. Alors, par le nom de Jésus, on peut manifester la gloire de Dieu le Père et on peut accomplir les œuvres de Dieu. On peut faire sa volonté finalement. Voilà, c'est la nature des œuvres, c'est la source, c'est le fondement des œuvres de Dieu. Voilà, c'est ça le nom de Jésus. Celui qui a le nom de Jésus, un héritage céleste. Ce nom, le nom Jésus, si on a le nom de Jésus, on est responsable de faire les œuvres de Dieu. On peut donc invoquer le nom Jésus, mais par le passé, Dieu était loin de nous. Donc, même si on pouvait quand même invoquer le nom de Dieu, ce n'était pas Jésus. On ne pouvait donc pas espérer que Dieu pouvait être avec nous. Mais le nom Jésus nous permet d'être avec Dieu. Et on peut glorifier Dieu en possédant le nom Jésus. C'est notre mission, c'est notre charge. Élever Dieu, glorifier Dieu. C'est ça notre mission. En tant que ceux qui possèdent le nom Jésus. Et nous pouvons appeler Dieu Père, nous sommes ses enfants. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à Dieu le Père. Donc le Fils doit obéir à son Père, c'est ce qui est tout à fait normal, naturel. Alors, lorsque Jésus a quitté ce monde, il nous a demandé de rester à Jérusalem afin de recevoir le Saint-Esprit, parce que Jésus voulait mettre en place un dispositif qui lui permettrait de travailler, même après son départ. Pourquoi Jésus nous a demandé de rester à Jérusalem? Parce que ici, on peut voir la naissance de l'Église dans ce monde. Alors là, beaucoup de monde se sont réunis afin de recevoir le Saint-Esprit selon la promesse de Jésus. Alors, ils ont enfin reçu le Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit, ils ont prié ardemment tous ensemble et ils ont connu un changement brusque en recevant le Saint-Esprit. C'était une expérience indéniable pour eux. Et Pierre aussi, hein, qui avait reçu le Saint-Esprit à ce moment-là, a évangélisé beaucoup de personnes en leur disant que vous receviez le baptême et le pardon des péchés, à ce moment-là, vous aurez le Saint-Esprit. C'est ainsi que Pierre a prêché. Et lorsque les églises primitives ont commencé à bouger de manière bien active, Paul a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc, en fait, les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Donc, Paul les a baptisés et il a imposé la main sur eux. À ce moment-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Là où a eu lieu la venue du Saint-Esprit. Il y a eu une forte opération hein, du Saint-Esprit. Donc voilà, Jésus est venu dans ce monde et il reviendra. Donc voilà, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent attendre l'avènement de Jésus. Donc Jésus est dans les cieux parce qu'il est monté hein, dans les cieux et à travers le Saint-Esprit, Jésus veut travailler à travers nous en étant en nous. Alors il nous a donné le Saint-Esprit. Alors par le Saint-Esprit, nous pouvons nous rendre compte que Jésus est en nous et que nous soyons en Jésus. Par le Saint-Esprit, on peut être au courant du fait que le Saint-Esprit demeure en nous pour l'éternité. Il faut faire réussir les œuvres de Jésus. Voilà, il faut que nous en soyons vraiment reconnaissants. Mais il ne suffit pas d'être reconnaissant vis-à-vis de Jésus. Il faut faire attention à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? En fait, la volonté de Dieu est en mise en péril aujourd'hui. Il est en fait, Dieu est en crise. Qu'est-ce que ça signifie? Dans le passé, lorsque Jésus est venu dans le monde, il a été persécuté, il a été insulté par les hommes, il a beaucoup souffert à cause des hommes. Aujourd'hui, ces jours-ci, la volonté de Dieu est rejetée par les hommes. On blaspheme contre la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas les païens, ce sont les chrétiens. Ce sont les saints qui refusent la volonté de Dieu. Les gens dans ce monde ne peuvent pas s'opposer au Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité que le monde ne peut connaître ni le recevoir. Mais nous le connaissons, nous connaissons le Saint-Esprit qui demeure en nous. Alors ceux qui s'opposent au Saint-Esprit sont des chrétiens. C'est pourquoi il y a une confrontation entre la volonté de Dieu et celle des saints. Dans le passé, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu pouvait enlever le Saint-Esprit. En fait, il pouvait enlever l'Esprit de Dieu des hommes. Mais maintenant, la situation est changée. Dieu ne ôte pas de nous le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que nous pouvons inquiéter le Saint-Esprit. Nous pouvons l'attrister. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. C'était la méthode de Jésus. Et alors, quelle est la signification de l'envoi du Saint-Esprit? Jésus ne peut plus souffrir. C'est ça, son intention. Voilà, il a fait. Alors, si on limite le Saint-Esprit, si on blasphème contre le Saint-Esprit, l'incrédulité, c'est le péché commis par les païens, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché commis par les chrétiens qui connaissent la volonté de Dieu. Mais nous recevons le Saint-Esprit, donc il importe vraiment d'obéir au Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a expliqué la raison pour laquelle le Saint-Esprit devait venir. Alors Jésus nous a dit, si vous recevez le Saint-Esprit, il vous conduira à la vérité. Voilà, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Cela a été déjà prophétisé à l'époque de l'Ancien Testament. Il est dit dans les Psaumes, il restaure mon âme et il le conduit dans le chemin de la justice à cause de son nom. Il fait son œuvre pour son nom Et le Saint-Esprit vient, à ce moment-là, il va nous enseigner la volonté de Jésus et il va nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Voilà, c'est ainsi que le Saint-Esprit nous enseigne la volonté de Jésus et nous rappelle tout ce qu'il a dit. Donc voilà, le Saint-Esprit, n'est pas celui qui nous aide en étant à côté de nous. Le Saint-Esprit nous accompagne pour nous aider dans cet malentendu. Il faut que nous changions notre pensée, notre perception du Saint-Esprit. Dieu est celui qui nous devance. Donc, c'est nous qui devons le suivre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous suit. Mais parfois, nous devançons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous devançons la volonté de Dieu? Nous devançons le Saint-Esprit. Quelle est votre réponse? En fait, je vois votre cœur. Je lis votre cœur. Alors là, parce que notre habitude, qu'est-ce que c'est? C'est devancer la volonté de Dieu, devancer le Saint-Esprit, parce que nous sommes remplis des pensées humaines. C'est la raison pour laquelle nous ne connaissons pas exactement la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous mettons en avant notre propre volonté et nous voulons vraiment, nous voulons changer même la volonté du Saint-Esprit afin d'accomplir notre propre volonté. Donc nous faisons un tel calcul afin de devancer le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous le refusons, nous rejetons la volonté de Dieu. C'est ça notre problème. Mais si nous le faisons une ou deux fois, si nous répétons ce genre de pratique, nous refusons la volonté de Dieu d'une manière habituelle. Donc, à ce moment-là, nous recevons un entraînement incorrect. Il faut que nous soyons, formés, entraînés d'une manière normale et correcte. Si nous le faisons, nous pouvons le tenter. Alors, si nous continuons cette pratique, nous le tentons. Mais en fait, parfois, nous pouvons tester Dieu. Tester Dieu, c'est qu'est-ce que c'est? Par exemple, Dieu nous a déjà dit, « Je vais vous aider, soyez saints. » Ou bien, voilà, à ce moment-là, vous pouvez me tester. Alors, donnez les offrandes. Donnez-moi les offrandes. De tout votre cœur et soyez fidèles à l'Église. Montrez votre vertu à l'Église. Montrez votre bienveillance à l'Église. Je vais vous bénir à ce moment-là. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Hein, c'est ça sa volonté. À ce moment-là, voilà, c'est ainsi que Dieu nous donne des commandements positifs qui nous permettent de le tester. Mais bien sûr, on peut donc le tester hein, selon ses paroles, mais on ne peut pas le tenter. C'est différent. Tous les péchés commis sont pardonnables, mais le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Si on pêche contre le Fils de l'homme en parole, on peut être pardonné. Par contre, si on pêche contre le Saint-Esprit en parole, nous ne pourrons pas être pardonnés. C'est impossible. C'est un avertissement redoutable que Dieu nous a donné. C'est vraiment redoutable. On ne peut pas faire passer comme ça cette parole, faire donc beaucoup d'attention. Si on refuse la parole de Jésus, Dieu peut nous pardonner, mais Jésus a traité d'une autre manière la question du péché contre le Saint-Esprit. Par exemple, alors qu'est-ce que c'est le résultat du péché? On peut tomber malade? Ou bien, on est encore normal, mais c'est une question de l'âme. Hein, donc, on ne sait pas ce qu'il va arriver si on pêche. Jésus a dit, il faut craindre celui qui peut tuer non seulement le corps, mais aussi l'âme. Donc, c'est pas la peine de redouter seulement celui qui peut tuer le corps. Donc, il faut que nous soyons bien entraînés et formés afin de suivre la volonté de Dieu, bien-aimés, mais bien-aimés. En ce qui concerne la question du Saint-Esprit, hein, du traitement du Saint-Esprit, en fait, quel doit être notre comportement? Puisqu'il y a beaucoup de monde, À l'Église, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent blasphémer contre le Saint-Esprit, mais il ne faut pas que nous nous trouvions dans une telle situation. Certains disent, voilà, tout le monde est différent, on peut refuser le Saint-Esprit une seule fois, à ce moment-là, on ne pourra pas mourir. On peut dire comme ça trop facilement, mais on ne peut que mourir. Mais on peut même mourir. Certains espèrent un hasard. Ils pensent qu'ils pouvaient éviter la mort. Mais il est dit clairement dans la Bible, si vous péchez contre le Saint-Esprit, vous ne serez jamais pardonné et on ne même pas péché contre le Saint-Esprit, même en parole. Ce péché ne sera pas pardonnable. Alors, par exemple, il y a certains qui disent pourquoi ma pensée est différente de celle du Saint-Esprit? Parce que moi aussi, je suis un croyant. Comment pourrais-je m'opposer au Saint-Esprit? Est-ce que vous m'avez compris? Quelqu'un dit, moi aussi j'agis selon le Saint-Esprit. Mais cette personne-là s'oppose à l'Église. Est-ce qu'il est correct? Mais qu'est-ce qu'il est dans la Bible? Dieu nous a donné ce qui lui était nécessaire. Nous sommes tous les membres de l'Église. Donc, ces membres doivent s'harmoniser l'un avec l'autre. Il y a un seul corps, mais il y a beaucoup de membres qui constituent ce corps. Donc, les membres du corps doivent s'harmoniser l'un avec l'autre. Vous êtes le corps de Jésus et donc vous êtes les membres de Jésus-Christ. Donc, Dieu agit sur l'Église à travers le Saint-Esprit et cette Église a été rachetée par le sang de Jésus. Voilà, c'est le corps de Jésus et cette Église doit être conduite par le Saint-Esprit. Donc là, au sein de l'Église, il y a l'imposition de main, il y a les charges à accomplir. Donc le Saint-Esprit est le Seigneur de l'Église. Alors, méthodiquement, c'est correct ou pas? Parce qu'il y a la méthode de Dieu qu'on ne peut pas juger. Alors, on ne peut pas avoir un jugement concernant la méthode de Dieu. En fait, Dieu travaille de façon parfaite avec ses propres méthodes. Là-dessus, on ne peut rien dire. Donc, vous et moi, nous devons absolument réussir au culte officiel. Imaginez la situation de l'Église primitive. En fait, il agit sur le culte officiel sur lequel on doit se concentrer. Et Jésus agit. Là où se trouve, il y a beaucoup de saints. Mais avec le temps, le monde se modernise. Et alors, on veut monopoliser Dieu. Mais lors du culte officiel, on doit partager Dieu. C'est pourquoi on ne s'intéresse pas beaucoup au culte officiel. Mais Dieu nous a demandé de chercher d'abord son royaume et sa justice. Parce que c'est la loi de Dieu, c'est le principe du royaume des cieux. Lors du culte officiel, Dieu agit officiellement. Donc c'est le lieu où Dieu agit et travaille d'une manière officielle. Donc il faut qu'on se concentre totalement sur le culte officiel, parce que Dieu veut nous influencer. Donc, il agit à travers le culte, lors de ce culte. Il accroît son influence lors de ce culte, pendant lequel nous pouvons être entraînés, nous pouvons être sanctifiés et nous pouvons accomplir sa volonté. Donc, il faut que nous nous unissions pour que le Saint-Esprit puisse agir. Voilà. Il faut faire en sorte que le Saint-Esprit fasse son travail, mais on se dit, est-ce que Dieu nous conduit d'une manière égale. Mais en fait, Dieu n'aide pas les individus. Il conduit les saints à travers ses serviteurs, pasteurs ou ministres, par exemple. On obéit aux œuvres de l'Église. C'est ça notre mission, c'est notre charge. Ce qui est important, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas que nous devancions la volonté de Dieu. Il faut faire en sorte que nous soyons utilisés par le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça la justice des hommes, c'est ça la sainteté des hommes. Il faut que nous soyons totalement utilisés par Dieu, par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous soyez utilisés par le Saint-Esprit. Donc, à partir de ce moment-là, je prie au nom de Jésus-Christ que vous soyez utilisés par vous-même. Non. La réponse ne doit pas être oui, hein, parce que j'ai espéré que vous répondiez non. Il ne faut pas que vous soyez utilisé par vous-même, parce que si vous êtes utilisé par vous-même, vous vivez à votre gré. Ce n'est pas correct. Au sein de l'Église, il peut y avoir certaines tribus, hein, certains groupes. Donc, en fait, ils disent le pasteur n'est pas correct. À mon avis, l'Église doit être telle ou telle. Ah, ça, c'est pas bon. Mais faire attention lorsque vous dites ce genre de choses, parce que vous ne pouvez pas donner un jugement aux œuvres de Dieu. Ça, c'est pas possible. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Toutes les œuvres, toutes les charges, tous les dons du Saint-Esprit ne sont donnés par le même Esprit. Et donc, selon nos actes, Dieu attribue ses dons, les charges, etc. Est-ce que Dieu nous donne le don d'enseignant, une charge d'enseignant? Est-ce que Jésus nous dit dans un rêve, fais ceci ou cela, et alors le matin, on sait ce qu'on a reçu? Non. C'est le pasteur qui nous distribue les charges de l'Église. Donc, il ne faut pas faire entrer le cours de ce monde à l'Église. À ce moment-là, vous mettez en péril l'Église. Vous faites souffrir l'Église. Il y a peu qui ont reçu le Saint-Esprit. Il ne faut pas que nous soyons donc disputés. Nous nous disputions. Et nous avons beaucoup de temps qui sont très précieux. Et ce temps se passe sans cesse. Pendant ce temps-là, il faut que nous suivions la volonté de Dieu. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers nous. Donc, parce que le temps se raccourcit. Donc, à ce moment-là, il faut que nous accomplissions la volonté de Dieu en l'acceptant à bras ouverts. Jésus est venu et il a accompli sa volonté, la volonté de Dieu le Père, pardon, et il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Il faut que nous comprenions son inquiétude, sa préoccupation. Même si j'ai souffert dans ce monde, même si j'étais méprisé dans ce monde, même si j'étais insulté par ce monde, même si je me suis abaissé dans ce monde, si le Saint-Esprit vient, je ne serai plus traité d'une telle manière. Même si j'ai été lié dans ce monde pour racheter les hommes, je ne serai plus lié si le Saint-Esprit vient. Même si j'ai été insulté par les hommes, je ne serai plus traité d'une telle manière si le Saint-Esprit vient. Je ne serai plus traité d'une telle manière. Je travaillerai seulement dans les saints. Donc, poursuivez le Saint-Esprit. Mais à notre insu, on blasphème contre le Saint-Esprit parce qu'on agit selon les pensées humaines. On pense à tort que nos pensées charnelles sont les pensées de Dieu. Mais il ne faut pas agir comme ça. Il ne faut pas limiter le Saint-Esprit. Hein. Il ne faut jamais limiter le Saint-Esprit. Il faut faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers nous. Nous n'avons pas beaucoup d'opportunités. On n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent, hein, même si on a couru. Alors, on pensait qu'on était un jeune homme, mais on a déjà fait passer des décennies. Voilà, c'est ça la vie des hommes. Et c'est très courte. Alors, il faut donc connaître la volonté de Dieu pour l'accomplir pendant notre vie qui est vraiment courte. On n'a pas beaucoup d'opportunités de faire le service bénévole pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, voilà, retenez bien la longueur du temps devant, la longueur du temps où nous pouvons vivre dans ce monde. C'est très court. Donc, il faut que nous soyons saints devant sa volonté. Alors, même si nous pouvons faire une petite chose, cette petite chose peut être considérée par Jésus comme une grande chose, parce que la perception des choses de Jésus est différente de celle de ce monde. Donc, il faut que nous soyons fidèles même en petites choses. En fait, il ne faut pas que nous ayons une vision à court terme, il faut voir l'éternité. Parce que Dieu nous aime depuis l'éternité. Il nous a montré la gloire céleste à travers Jésus. Il faut que nous abandonnions nos propres pensées afin d'adopter la pensée de Jésus. La souffrance que nous connaissons dans ce monde ne peut pas être comparée avec la gloire que nous allons recevoir dans le royaume des cieux. Les enfants de Dieu peuvent atteindre cette gloire lors de l'avènement de Jésus. L'Église, alors vous et moi, en tant qu'Église, il faut que nous fassions les œuvres de Jésus qui nous a confiées d'une manière efficace et progressive. Ce qui est plus important pour nous, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, certains disent, j'aime pas faire ce genre de choses parce que je voudrais faire une très grande chose, parce que je suis exceptionnel, je suis particulier, mais il ne faut pas dire ce genre de choses. Même si on est dans un coin, même si on fait une petite chose, à ce moment-là, Jésus nous regarde, il se rappelle de nous. Donc, lorsque vous êtes dans un coin caché, qui n'est pas très visible, vous devez faire tout votre maximum pour être vu par Jésus. Alors, entraînons-nous, préparons-nous pour pouvoir sauver les âmes. Et alors, soyez utilisés en tant qu'outil de Dieu. Partageons notre cœur. Il ne suffit pas de recevoir la grâce de Dieu. Il nous a donné un nouveau commandement par le Saint-Esprit. Il faut que nous pratiquions ce commandement par notre corps pour que Dieu puisse travailler aisément en nous. Il faut faire en sorte que Dieu soit en paix, soit paisible. Il ne faut pas donc entraver l'opération du Saint-Esprit. Pour cela, faire attention et il faut nous entraîner de notre force. Ne vous blasphémez pas contre le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Maintenant, c'est la période de la dédication, donc il faut que nous y préparions. On ne peut pas s'y préparer à notre guise. Parce que, voilà, le temps est difficile. Hein? Maintenant, c'est difficile de nous dédier, de dédier les offrandes à Dieu. C'est pénible, mais si nous le faisons, nous pourrons porter des fruits éternels qui ne peuvent pas être volés. Lorsque Dieu nous influence, il faut y obéir. Lorsque Dieu nous influence, il faut entrer dans sa volonté profonde. Alors, lorsque nous quittons ce monde, nous serons satisfaits de ce que nous avons fait. Donc, il faut que nous soyons toujours conscients de l'importance de la charge que Dieu nous a confiée. Donc, mobilisons toutes nos forces, mobilisons tout notre zèle, tous nos efforts pour réussir dans cette dédication, dans la dédication 2016. Où que Jésus passe, il y a la gloire céleste. Voilà, c'est ce que nous devons voir. Et il faut que Dieu s'intéresse à nous. Et voilà, c'est ça mon objectif. Donc, les fidèles de l'Église de son arc doivent être grandement aimés par Dieu. Dieu nous donne une bonne opportunité de faire ses œuvres. Saisissons ces opportunités. Mais Il faut que nous soyons un et nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes frères et sœurs. Donc il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on s'encourage l'un l'autre. Alors si on manque de force pour triompher de l'ennemi, pour triompher du monde, on doit être aidé par quelqu'un d'autre. Pour cela, il faut nous unir. On a été appelés, on a été choisis par Jésus, donc il faut que nous nous unissions pour ne pas être perdus. Alléluia. Veuillez vous lever, nous allons chanter un cantique. Chantons ce cantique avec notre cœur. Avec notre cœur, ok? Chantons tous ensemble.
주 바랐나이다 온 마음 다해 사랑합니다 온 마음 다해 주 알기 원하네 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬길이 온 마음 다해 나 염려하지 않아도 내 쓸 것 아시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리나 마음 다해 사랑합니다 마음 다해 주 알기 원하네 내 모든 삶 신이 주만 섬기리 온 맘 다해 온 맘 다해 온 맘 다해 사랑합니다 온 맘 다해 주 알기 원하네 내 모든 삶 성길이 온 마음 다해 다시 한번 우리 온 마음 다해서 온 마음 다해 사랑합니다 온 마음 다해 주도 알기 원하네 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리 온 마음 다해
할렐루야
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 할렐루야 Prions Dieu, notre Dieu, Dieu de l'Église, notre Seigneur et Sauveur qui nous élève, prions pour que l'Esprit de la vérité, le Saint-Esprit puisse déployer la volonté de Dieu Alors, nous l'accueillons. Alors, montre-nous ta volonté. Prions pour que nous puissions accomplir sa volonté. Prions de tout notre cœur, de notre volonté, de notre force.